Place Info.
Bonsoir à tous, bienvenue dans les débats de l'écho sur France Info en partenariat avec le Cercle des économistes. Avec nous ce soir, Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes, et Denis Ferrand, directeur général de l'Institut de conjoncture Rex et Code. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Et merci d'être en ligne avec nous. Alors, il est clair que l'économie mondiale est désormais entrée en récession. Cette phrase n'est pas de moi. C'est une déclaration signée de la directrice générale du Fonds monétaire international qui ne passe pas par quatre chemins pour décrire la situation, conséquence de la pandémie de Covid-19 qui se propage dans le monde. Kristalina Georgieva s'attend à une récession assez profonde, dit-elle, en 2020, probablement pire d'ailleurs que celle de 2009 qui avait suivi la crise financière. Christian de Boissieu, je me tourne tout d'abord vers vous. Quelle est l'ampleur de la crise économique 1929, 2009? On a entendu beaucoup de comparaisons cette semaine, dont celle de Bruno Le Maire d'ailleurs, le ministre de l'économie. La crise de 29, alors c'est pas rien, ça aboutit quand même à la guerre. Pardon pour la violence de ma question, mais le ministre a mis cette question sur la table.
Écoutez, le film dramatique dans lequel nous sommes n'est pas terminé, mais on peut quand même essayer de faire quelques scénarios ou hypothèses. La crise actuelle, qui n'est pas finie, va être plus grave que celle de 2009. Je rappelle qu'en France, en 2009, le PIB, la production intérieure brute, avait reculé de à peu près de 2,5%. L'INSEE vient de sortir un chiffre intéressant, si je puis dire. Un mois de confinement, ça fait 3 points de PIB en moins. Si on a 2 mois de confinement, c'est l'hypothèse plausible aujourd'hui, ça veut dire qu'au lieu d'avoir une croissance de plus 1%, qui était celle prévue à peu près avant les événements actuels, on serait plutôt à moins 5. Donc ma certitude ou quasi-certitude, c'est que c'est plus grave que 2009. Quant à la comparaison avec 29, ça me paraît trop tôt et j'espère qu'on ne sera pas dans les années 30. Et il y a quelque chose qui me rend dans cette situation compliquée quand même un peu optimiste, c'est qu'il y a des pilotes dans l'avion, à différence des années 29. Les banques centrales et les États interviennent massivement, et ça peut permettre de, non pas d'éviter la récession, mais de la contenir un peu.
On y reviendra. Alors, Denis Ferrand, est-ce qu'on peut être certain de l'impact chiffré de la crise? Je rappelle que selon l'INSEE, un mois de confinement, ce sont 3 points de PIB en moins sur un an, donc ça fait grosso modo 75 milliards d'euros de pertes pour notre économie sur un an. Est-ce à dire que si nous sommes confinés 2 mois, on va perdre 6 points de croissance, 150 milliards? Est-ce que l'arithmétique est aussi simple, Denis Ferrand?
Alors non, on ne peut pas être assuré de ce chiffrage, hein, ne serait-ce que déjà par la durée du confinement sur laquelle peu d'économistes sont quand même à même de s'engager. Mais en revanche, l'économiste, justement, il doit essayer d'apprécier la régularité des phénomènes. Et ce qui nous inquiète, c'est que à mesure que le confinement s'allongera, eh bien l'impact sera plus important. Si vous voulez, 2 mois de confinement, ça n'est pas 1 mois de confinement multiplié par 2. Non, son impact sera d'autant plus important parce que à mesure que le confinement s'allonge, eh bien, c'est une difficulté de plus en plus importante pour les entreprises, une fragilisation de plus en plus importante de leurs résultats, de leur trésorerie, et qui les rendra de moins en moins à même de pouvoir rebondir quand on sortira de la récession.
Donc ce que vous êtes en train de nous dire, Denis Ferrand, c'est que tous les chiffres qui sont avancés jusqu'à présent, c'est vraiment du doigt mouillé, mais du vraiment très gros, très mouillé.
Oui, parce que vraiment, la première hypothèse, on ne la connaît pas. La première hypothèse qui est vraiment celle de cette durée du confinement. En revanche, on voit bien quand même se manifester d'ores et déjà des phénomènes de forte épargne de la part des ménages. C'est-à-dire qu'on est véritablement dans un choc qui est un choc d'offres. C'est-à-dire que vous avez une impossibilité de produire. Mais dans le cas de la France, ce qui n'est pas le cas notamment des États-Unis, dans le cas de la France avec les systèmes qui sont mis en place, comme par exemple le chômage partiel pour les salariés qui sont en CDI, eh bien on garde les revenus et donc, d'une certaine manière, on n'amplifie pas le choc de récession, alors que c'est plutôt le cas par exemple aux États-Unis où il n'y a pas ces filets.
Alors, vous parlez des États-Unis, Denis Ferrand. Christian de Boissieu, il y a effectivement cet autre facteur, c'est-à-dire la propagation de la pandémie. On est parti de la Chine, elle a atteint l'Europe et maintenant elle gagne les États-Unis, le premier moteur économique mondial. Cette propagation de la pandémie, sur le plan économique, c'est aussi important à prendre en considération.
Tout à fait, c'est-à-dire qu'on a l'impression, si je puis dire, d'un jeu qui n'est pas un jeu de chaises musicales. Tout ça a commencé en Asie, est venu en Europe, arrive aux États-Unis et puis arrive en Afrique, on parle pas assez de l'Afrique. Mais je veux dire par là que c'est un processus séquentiel. Et ça veut dire, à mon avis, que la récession va être plus forte, mais elle va être surtout plus longue que prévu. Je pense que la récession va durer l'essentiel de l'année 2020. J'ajoute un point par rapport au débat qu'on a avec Denis, c'est que si j'ai évoqué les chiffrages, vous l'avez compris, c'est avec beaucoup de précautions. Moi, je pense que les chiffrages doivent être faits d'autant plus prudemment que on court après les événements. Hein, et chaque jour, il y a des éléments nouveaux. Je reviens sur votre question. Le fait que ça soit séquentiel, un continent après l'autre, ça veut dire, à mon avis, que la récession va occuper l'essentiel de l'année 2020.
Oui, d'autant que là, maintenant, c'est l'économie américaine qui va être touchée. Donc, Denis Ferrand, c'est quand même le moteur mondial en termes économiques. C'est ce qui entraîne l'économie américaine, entraîne le reste du monde.
Oui, c'est l'économie américaine et c'est aussi le consommateur américain. C'est celui qui est souvent présenté comme celui qui va donner le la à l'économie mondiale par ses décisions d'achat. C'est véritablement lui qui est concerné avec cette augmentation tout à fait spectaculaire qui est intervenue du nombre de demandeurs d'emploi. On est arrivé à 3,5 millions de demandeurs d'emploi d'une semaine à l'autre, ce qui est un chiffre qui n'a jamais été vu, une accélération qui n'a jamais été vue par le passé, qui a été 4 fois plus importante que cela n'a été le cas en 2009. Pour autant, il ne faut pas se tromper, ce sont aussi des phénomènes qui sont de nature temporaire, en particulier ce qui participe à l'augmentation du chômage, c'est le fait que ce sont des salariés dans les secteurs de la restauration. Or, le secteur de la restauration sera-t-il encore complètement arrêté d'ici la fin de l'année? Non, vous aurez eu une baisse quand même assez rapide qui va intervenir du chômage après cette hausse extrêmement soudaine qui est intervenue récemment aux États-Unis.
Christian de Boissieu, avant de marquer une pause et de nous retrouver pour la suite de ce débat, concrètement, est-ce que les banques centrales qui ont injecté des milliards, 750 milliards d'euros pour la Banque Centrale Européenne, les États également, est-ce qu'on a fait assez?
On a fait ce qu'il fallait, on verra si c'est suffisant. La BCE, la Banque Centrale Européenne, a fait plus, puisque 750 plus ce qui était prévu, c'était à peu près 1000 milliards d'euros. Oui. On a affaire à... On l'a pas dit, on l'a dit l'un et l'autre sans le dire. Il y a une conjugaison d'un choc d'offres et d'un choc de demande. Et c'est ce qui est relativement rare. Et sur la demande, je suis d'accord avec Denis Ferrand, le problème de la consommation se dérobe avec le confinement nécessaire, et la production, elle est arrêtée dans beaucoup de secteurs.
Oui, donc, c'est-à-dire que la politique de l'offre, enfin, l'offre, ce sont les entreprises qui ne peuvent plus produire, donc il n'y a plus d'offres. Maintenant, il faut relancer par la demande. La demande, c'est la consommation des ménages.
Il faut marcher sur les deux jambes, et pour l'instant, on marche sur aucune jambe. Ni l'offre, ni la demande.
Denis Ferrand ?
Oui, tout à fait, c'est exactement ça, c'est que pour l'instant les deux se sont dérobés parce que la demande d'une certaine manière est empêchée par le fait que physiquement vous ne pouvez pas consommer, avec un point qui est tout à fait caractéristique de cette récession, c'est qu'habituellement les récessions elles sont très amplifiées par le secteur industriel, là elles touchent les secteurs qui sont des secteurs, on va dire, qui ont une relative inertie de leur activité, ce sont les secteurs de services, ce sont les secteurs notamment de la restauration, des loisirs, de la culture.
On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de suite.
Et tout de suite, le fil info à 17h50 sur France Info. C'est avec Victor Vasseur.
Les premières commandes de masques arrivent en Chine. Un avion avec 5,5 millions de masques est attendu à l'aéroport de Roissy pour lutter contre le coronavirus. Cet avion cargo en provenance de Shanghai dispose à son bord de près de 100 tonnes de matériel médical. Le syndicat de policiers Alliance, choqué après une publication de Philippe Poutou sur Twitter. L'ancien candidat à la présidentielle remercie les vrais héros qui servent pendant cette épidémie. Les soignants, les boulangers, les éboueurs, mais exclut les policiers patois, écrit-il sous une photo de policier. Des propos honteux et insultants selon le syndicat. Les 36 patients atteints de coronavirus pris en charge dans un TGV médicalisé parti du Grand Est sont bien arrivés à Bordeaux et Poitiers. Ces malades seront soignés dans 10 hôpitaux de Nouvelle-Aquitaine. La Chine et la Russie ne doivent pas instrumentaliser l'aide que ces deux pays apportent à d'autres dans la crise sanitaire du Covid-19. Les mots de la secrétaire d'État aux affaires européennes Amélie de Montchalin. Elle déplore des mises en scène à des fins de propagande. Une partie de la réforme de l'indemnisation du chômage ne sera pas appliquée le 1er avril, mais le 1er septembre. Elle est décalée à cause de l'épidémie. Un décret paraît dans le journal officiel. La réforme doit durcir le calcul de l'allocation pour les travailleurs qui alternent contrats courts et périodes de chômage. J'avais les larmes aux yeux en voyant ça. Une jeune infirmière de Bayonne, désabusée, l'a retrouvée ce matin sur sa boîte aux lettres. Un mot de ses voisins. Elle est invitée à déménager parce qu'elle travaille auprès de malades du coronavirus.
France Info. Et tout est plus clair. Les débats de l'écho. Emmanuel Cuny.
Deuxième partie des débats de l'écho sur France Info en partenariat avec le Cercle des économistes et nos deux invités. Ce soir, Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes, et Denis Ferrand, directeur général de l'Institut de conjoncture Rexecode. Avec l'épidémie de Covid-19, l'économie mondiale navigue à vue, qui plus est en plein brouillard. Autant dire que rien ni personne ne peut dire concrètement comment nos économies vont sortir de cette crise majeure, si ce n'est évidemment qu'elles seront totalement anémiées. Les banques centrales et les États injectent des milliards d'euros, nous venons de le voir, pour permettre aux différents pays de garder la tête hors de l'eau. Mais jusqu'à quand? D'où la nécessité de préparer la reprise dès aujourd'hui. Oui, mais comment? Denis Ferrand, question, la pandémie prendra fin un jour, c'est évident. Est-ce que la reprise économique sera aussi rapide que la chute?
Alors, elle va venir, alors à quel moment? Troisième, quatrième trimestre, peut-être début de l'année prochaine, mais je serais, par rapport à ce qu'évoquait Christian tout à l'heure, je serais plutôt pour un début de redémarrage, même dès le troisième trimestre, mais pour des raisons qui sont très simples. Quand vous avez des secteurs économiques dont l'activité est passée de niveau de 100 à un niveau de 0, le simple fait de remonter à 20, 30 ou même 40 est déjà en soi un retour sur de la croissance. Et c'est là que cela devient dangereux. Parce qu'il faut toujours se souvenir que ce sont dans les périodes de sortie de récession que notamment les entreprises se retrouvent fragilisées. Parce que quand elles sortent d'une récession, leurs trésoreries sont exsangues, leurs résultats ont fondu comme neige au soleil, et d'un seul coup, elles doivent se remettre à produire. Et pour produire, eh bien, il faut préalablement acheter du matériel auprès de ses fournisseurs, commencer à payer des salaires avant même quelquefois que du chiffre d'affaires n'ait été d'ores et déjà constaté. Et donc c'est à ce moment-là que vous avez des très grandes fragilités sur les entreprises et que vous avez une accélération des défaillances. Les défaillances d'entreprises, enfin les défauts d'entreprises, les cessations d'activité d'entreprises ne se produisent pas pendant les récessions, ils se produisent au sortir des récessions. C'est là qu'ils vont accélérer.
Donc rien n'est gagné, effectivement, quand on verra le bout du tunnel. Je vais vous enlever les mots de la bouche de Denis Ferrand. On ne peut pas faire courir un marathon violent à un athlète anémié. C'est un petit peu ce que vous dites.
C'est un peu ça, oui, tout à fait.
C'est votre formule, hein, pour ne rien cacher. Vous l'aviez dit avant l'émission. Ouais. Christian de Boissieu, même question. Le rattrapage sera long?
D'abord, le rattrapage, il sera partiel, parce qu'il y a des tas de choses qui ne vont pas se rattraper. L'aérien, le tourisme, hôtel, restaurant, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont pas se rattraper. Et pas que ça, et pas que les secteurs que j'évoque. Je pense que la reprise, alors je sais pas quand elle commencera, on verra bien au deuxième semestre 2020, mais je répète, moi, pour moi, l'année 2020, elle va être pour l'essentiel en récession. La reprise sera lente, parce que il va falloir du temps pour remettre l'appareil productif en marche, à même de fonctionner dans les différents secteurs, et tous les secteurs aujourd'hui sont concernés ou presque par l'arrêt de la production. J'ajoute que il va falloir consolider la reprise, c'est-à-dire pas s'emballer en disant voilà c'est reparti et comme en 40 et etc. Il va falloir consolider la reprise parce que le pire ça serait de retomber. De retomber à la fois dans la crise, à la fois du point de vue sanitaire et du point de vue économique, les deux sont liés. Donc, à mon avis, excusez-moi d'utiliser les lettres de l'alphabet, mais est-ce qu'on aura une sortie en V, c'est-à-dire une sortie aussi rapide qu'a été l'entrée en crise? Je ne crois pas. Il faut que ça soit progressif, il faut que ça soit consolidé, il faut progressivement remettre les choses en marche et puis que les employés, les salariés puissent repartir au boulot, hein, parce que c'est quand même ça aussi qui conditionne tout le reste.
Denis Ferrand, est-ce qu'il faut porter notre regard uniquement sur 2020? Je présume que non, parce qu'on sait que pour 2020, c'est plus le problème, visiblement c'est foutu, pardon du terme. Il faut plutôt regarder 2021, 2022?
Oui, c'est très important de regarder la séquence des deux années. Parce que derrière cette récession très profonde que l'on connaît, il y aura une phase de récupération d'une partie de l'activité qui n'aura pas été effectuée. Effectivement, il y a des activités qui sont définitivement perdues. Ce qui n'a pas été consommé aujourd'hui ne le sera pas demain. Mais en revanche, il y a une partie de l'activité qui peut être reportée. Donc il faut bien regarder la séquence des deux années, au moins 2020, 2021, 2022. C'est encore un peu trop tôt pour faire de la projection. Et ce que l'on peut imaginer, nous avons fait quelques calculs à Rexecode, nous avons estimé que ce serait en gros une baisse permanente du niveau d'activité qui serait de l'ordre de 1,7 point sur les deux années 2020-2021. C'est-à-dire que si on prend la séquence des deux années, on est plus bas de 1,7 point que ce que l'on aurait fait spontanément. Mais quand on prend deux mois de confinement, cette fois-ci, la perte de niveau d'activité, c'est 4,4 points, c'est-à-dire beaucoup plus que simplement 1,7 fois 2. Donc on voit bien aussi combien la durée du confinement va fortement conditionner notre capacité à réagir même sur l'année 2021.
Mais Denis Ferrand, concrètement et rapidement, quel rôle joueront les ménages dans la reprise ? Qui va jouer cette reprise ? Les entreprises ou les ménages ?
Les ménages, d'une certaine manière, actuellement, ils constituent ce qu'on pourrait appeler une épargne forcée. Puisque, en tout cas, pour les ménages, notamment...
Donc cette épargne, ils s'en serviront pour consommer le moment venu, c'est ça ?
En tout cas, le taux d'épargne en France, il est aux environs de 15%. Avec l'impossibilité de consommer tout en ayant conservé des revenus, le taux d'épargne pourrait monter jusqu'à 20% du revenu des ménages. Progressivement, cette épargne va se réinjecter dans l'économie, et c'est ça qui sera le premier facteur de relance de l'activité économique. Ça viendra de manière très graduelle, très progressive, comme l'évoquait Christian.
Alors, c'est la question du pouvoir d'achat. Dernière question, elle vous revient, Christian de Boissieu. Est-ce qu'il faut s'attendre à des hausses d'impôts pour combler tout ça, parce que ça va coûter très très cher à l'État ?
Écoutez, il faut laisser filer les déficits publics. Les questions de vie ou de mort, c'est plus important que tout le reste. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je pense que c'est plus raisonnable de rester, s'il le faut, un peu plus longtemps dans le confinement pour sauver des vies. Et puis, ensuite, on gérera les conséquences économiques. Mais nous sommes dans un contexte où... Moi, j'attends que les mesures annoncées, qui sont très fortes au niveau français, soient mises en œuvre. Il peut y avoir un délai ici d'application entre les mesures annoncées et la mise en œuvre. Ce qui compte, c'est d'éviter les défaillances des petites entreprises, des PME, etc. Et puis sur l'Europe, je termine sur l'Europe. L'Europe, elle est vraiment à géométrie variable en ce moment. C'est-à-dire que l'Europe a la raison de laisser filer les déficits publics. Mais je regrette vraiment que les pays européens n'arrivent pas, même face à la crise du corona, à s'accorder sur des mesures...
C'est la discorde en Europe, et nous aurons l'occasion d'en débattre dans de prochaines émissions, de prochains débats de l'économie. Merci beaucoup Christian de Boissieu du Cercle des économistes et Denis Ferrand de l'Institut de Conjoncture Rex et Code. Prochain débat de l'écho sur France Info dimanche prochain. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, l'actualité continue sur France Info.